Hereford.
La nouvelle cour, pour la Toussaint, s'installa à Hereford. Si, comme disait Adam Orleton, évêque de cette ville, chacun dans l'histoire connaît son heure de lumière, cette heure pour lui-même était arrivée. Au bout de surprenantes vicissitudes, après avoir fait évader l'un des premiers seigneurs du royaume, été traduit en jugement devant le Parlement et sauvé par la coalition de ses pairs, après avoir prêché et animé la rébellion, il revenait triomphant dans cet évêché auquel il avait été nommé en 1317, contre la volonté du roi Édouard, et où il s'était comporté en grand prélat. Avec quelle joie cet homme petit, sans grâce physique, mais courageux de corps et d'âme, ne parcourait-il pas, revêtu de ses insignes sacerdotaux, mitre en tête, crosse en main, les rues de sa cité retrouvée. Aussitôt que l'escorte royale eut pris possession du château situé au centre de la ville, dans une boucle de la rivière Wye, Orleton n'eut de cesse de montrer à la souveraine les œuvres de son entreprise. Et d'abord, la haute tour carrée, à deux étages ajourée d'immenses ogives, chaque angle terminé par trois clochetons, deux petits en arête et un grand les dominant, 12 flèches en tout, montant vers le ciel, et qu'il avait fait élever pour embellir et magnifier la cathédrale. La lumière de novembre jouait sur les briques roses, dont l'humidité gardait fraîche la couleur. Autour du monument s'étendait une vaste pelouse sombre et bien tondue. « N'est-ce pas, madame, la plus belle tour de votre royaume ?» disait Adam Orleton, avec l'orgueil naïf du bâtisseur, devant cette construction ciselée, point trop chargée, pure de lignes, dont il ne cessait de s'émerveiller. « Ne serait-ce que pour avoir édifié ceci, je serais content d'avoir vécu. » Orleton tenait sa noblesse d'Oxford, comme on disait, et non du blason. Il en était conscient, et avait voulu justifier les hautes situations auxquelles l'ambition, autant que l'intelligence, et le savoir plus encore que l'intrigue, l'avaient conduit. Il se savait supérieur à tous les hommes qui l'entouraient. Il avait réorganisé la bibliothèque de la cathédrale, une librairie où les gros volumes, rangés la tranche en avant, étaient tenus aux planches par des chaînes à longs maillons forgés, afin qu'on ne pût les dérober. Près de 1000 manuscrits enluminés, décorés, merveilleux, rassemblant 5 siècles de pensées, de foi et d'invention. Depuis la première traduction des évangiles en saxon, avec certaines pages encore décorées de caractères runiques, jusqu'aux dictionnaires latins les plus récents, en passant par la hiérarchie céleste, les œuvres de saint Jérôme, de saint Jean Chrysostome, les 12 prophètes mineurs. La reine eut encore à admirer les travaux entrepris pour la salle du chapitre, ainsi que la fameuse carte du monde peinte par Richard de Bello, et qui ne pouvait être que d'inspiration divine, car elle commençait à faire des miracles. Hereford fut ainsi près d'un mois la capitale improvisée de l'Angleterre. Mortimer n'y était pas moins heureux qu'Orleton, puisqu'il venait de reprendre possession de son château de Wigmore, distant de quelques milles. On continuait pendant ce temps de rechercher le roi. Un certain Rice ap Owell, chevalier du Pays de Galles, vint un jour annoncer qu'Édouard II était caché dans une abbaye sur les côtes du comté de Glamorgan, où le bateau avec lequel il espérait gagner l'Irlande avait été jeté par les vents contraires. Aussitôt Jean de Hainaut, genou à terre, s'offrit à aller forcer dans son repaire de Galles le déloyal époux de Madame Isabelle. On eut quelque peine à lui faire entendre qu'il serait peu convenable de confier la capture du roi à un étranger, et qu'un membre de la famille royale se trouvait mieux désigné pour accomplir cette pénible besogne. Ce fut Henri Torscoll qui, sans joie excessive, eut à se mettre en selle pour aller, accompagné du comte de la Zouche et de Rice ap Owell, battre la côte de l'Ouest.